Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 1er Mordad, 1401 du calendrier iranien, 23 juillet 2022. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit mettre fin aux crimes constants d'Israël contre la Syrie, a demandé la République islamique d'Iran. La présence du régime israélien dans la région ne fera que créer de l'insécurité, a déclaré le général Tangsiri. Lancement d'un satellite iranien dans l'espace en automne. Et l'Iran lance le commerce rial-rouble. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a mis en garde contre les conséquences de la présence d'Israël dans la région du Golfe Persique. Le contre-amiral Alireza Tangsiri a également dénoncé Israël comme l'ennemi numéro un des musulmans. Il s'exprimait lors d'une réunion avec le commandant de la marine omanaise en visite en Iran, le contre-amiral Saif Ben Nasser Al-Rahbi. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a ajouté « Tous les pays du Golfe Persique ont un rôle à jouer pour renforcer leur unité afin d'assurer ensemble la sécurité régionale. » Les deux responsables ont souligné que la sécurité de la région devait être préservée par les pays du Golfe Persique eux-mêmes sans la présence des forces étrangères. Le président de l'Organisation spatiale iranienne a fait part qu'un satellite était prêt à être lancé avant d'ajouter qu'il était prévu de lancer ce satellite dans l'espace en automne. Hassan Salarié a déclaré « Des satellites sont prêts à être lancés et un programme de 10 ans est prévu que nous avons réalisé étape par étape. » Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA, 16 mai dernier, le chef de l'agence spatiale iranienne a déclaré que si les conditions se remplissaient conformément au contrat conclu avec les fabricants de satellites, d'ici la fin de cette année, un total de 7 satellites seront achevés et seront prêts à être lancés. L'Iran a inscrit le commerce rouble-rial comme la première étape du paquet de mesures bancaires irano-russe convenu lors du voyage du gouverneur de la Banque centrale iranienne à Moscou. Téhéran et Moscou ont convenu d'accepter leur monnaie nationale dans leurs échanges, ce qui signifie qu'ils veulent dire adieu au dollar américain en autorisant les paiements par le rial iranien et le rouble russe. Les analystes estiment que dans les circonstances politiques actuelles du monde, où les principales monnaies ont été utilisées comme outils politiques par certaines puissances, l'utilisation de devises locales et la signature de pactes monétaires bilatéraux et multilatéraux peuvent être un moyen efficace de neutraliser les politiques des grandes puissances pour dominer les autres pays. L'Iran affirme que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, doit assumer sa responsabilité et mettre fin aux crimes sans fin du régime israélien contre la Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné vendredi une attaque brutale aux missiles par le régime israélien visant la périphérie de la capitale syrienne Damas. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Des dizaines de Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été blessés lors d'une attaque des forces israéliennes contre la ville de Silvan en Cisjordanie occupée. Les forces sionistes ont ouvert le feu sur les Palestiniens qui protestaient contre un raid nocturne sur la ville en utilisant de balles réelles, de balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Les forces armées israéliennes ont également enlevé Zohair Rajabi, le chef d'un comité local chargé de surveiller les violations du régime sioniste à Silvan. Son fils Hamza a également été kidnappé. Israël a intensifié ses raids sur les villes palestiniennes en Cisjordanie occupée cette dernière semaine. Des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été arrêtés par les soldats israéliens. Bagdad a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies concernant l'attaque par la Turquie contre Dahouk. Le Parlement irakien s'est également réuni pour prendre une décision en réponse à cette attaque turque. Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé ce samedi qu'il avait déposé sa plainte officielle auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour tenir une réunion d'urgence concernant la récente attaque imputée à la Turquie contre la province kurdophone de l'Irak, Dahouk. Plus tôt, le parti politique irakien Asaeb Ahlalhar avait appelé le Parlement à prendre des mesures en réponse à l'attaque meurtrière de mercredi contre un village du nord imputé à l'armée turque. Le groupe de la résistance, qui fait également partie des forces de mobilisation populaire irakienne, a déclaré que les législateurs devraient demander au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de forcer la Turquie à se retirer du sol irakien. Il a déclaré que la Turquie devrait également être obligée de verser des indemnisations pour le meurtre des Irakiens. Asaeb Ahlalhar a même menacé d'entrer en action pour contrer l'agression turque si les législateurs ne prenaient pas les mesures nécessaires. Le groupe a déclaré que les actes d'agression incessants, l'implantation de bases militaires en Irak et la violation de la souveraineté de leur pays sont loin des principes de bon voisinage. Et enfin, les États-Unis continuent d'apporter une aide militaire à l'Ukraine. Les États-Unis ont signé pour 270 millions de dollars supplémentaires d'armes et d'équipements militaires pour le pays afin de l'aider à combattre la Russie. La Maison-Blanche a déclaré que Joe Biden avait clairement indiqué que Washington continuerait à soutenir l'Ukraine et son peuple aussi longtemps qu'il le faudra. L'aide comprend notamment des drones portables et des systèmes d'artillerie de précision HIMARS. Cela porte à 20 le nombre de systèmes HIMARS envoyés en Ukraine. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. L'Iran affirme que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, doit assumer sa responsabilité et mettre fin aux crimes sans fin du régime israélien contre la Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné vendredi une attaque brutale au missile par le régime israélien visant la périphérie de la capitale syrienne Damas, plus tôt dans la journée. L'agression et les attaques continues du régime sioniste contre la Syrie sont une violation claire de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et une violation flagrante des principes et des règles internationaux, a déclaré le porte-parole iranien. Il a critiqué le silence douteux des cercles et organisations responsables, ainsi que ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme face aux mesures illégales du régime israélien contre la Syrie, et a exprimé sa sympathie au gouvernement et à la nation du pays arabe, en particulier aux familles endeuillées de la dernière attaque. Les attaques répétées du régime sioniste contre la Syrie sont une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays et aideront les terroristes armés et maintiendront et renforceront leur présence en Syrie, ce qui menace en fait la sécurité de la région, a déclaré Nasser Kanani. Le ministère syrien de la Défense a déclaré vendredi dans un communiqué qu'au moins 3 soldats syriens avaient été tués et 7 autres blessés lors de l'attaque israélienne visant la périphérie de Damas. L'ennemi israélien a mené une frappe aérienne depuis la direction du Golan syrien occupé, a indiqué le ministère, ajoutant que la défense aérienne de la Syrie avait réussi à intercepter certains de ses projectiles entrants. La Syrie et le régime israélien sont techniquement en guerre en raison de l'occupation par ce dernier des hauteurs du Golan en 1967. Israël maintient une présence militaire importante sur le territoire qu'il utilise comme l'une des rampes de lancement pour des attaques sur le sol syrien. Les attaques du régime sioniste contre la Syrie ont commencé à augmenter de manière significative en ampleur et en fréquence après 2011, lorsque la Syrie s'est retrouvée sous l'emprise d'un terrorisme endémique soutenu par l'étranger. Répondant à la frappe israélienne, le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré que le pays se réservait le droit de répondre par des moyens appropriés par le droit international et la Charte des Nations unies à une agression israélienne répétée. Dans deux lettres identiques adressées au secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien a confirmé les actes d'agression criminelle israélien utilisant des rafales de missiles en provenance de la direction du Golan syrien occupé visant certains points aux alentours de Damas, selon le communiqué officiel de la Syrie. Le ministère a exhorté l'Organisation des Nations unies et son Conseil de sécurité à exercer leurs responsabilités en vertu de la Charte des Nations unies et à condamner une telle agression israélienne. Il a déclaré que le refus du Conseil de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et condamner les attaques répétées du régime israélien montre l'incapacité de l'organe mondial à assumer ses responsabilités et son incapacité à réaliser le minimum de mise en œuvre de ses devoirs dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et à travers le monde. Le régime israélien, avec les États-Unis et leurs autres partenaires occidentaux et régionaux, a été un fervent partisan des groupes terroristes qui ont opéré contre le gouvernement de Damas.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat de Presse TV français diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran ce vendredi 22 juillet, il y a moins de 24 heures, alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, était l'hôte de son homologue syrien et que les deux parties évoquaient les évolutions de la région et parlaient des évolutions en Syrie, en Irak, mais aussi des relations bilatérales, la Turquie a commis l'erreur de trop. En effet, alors que Erdogan vient de quitter la capitale iranienne après un sommet tripartite avec le président iranien, mais aussi son homologue russe, l'armée turque a lancé une attaque d'artillerie contre une station balnéaire dans la région du Kurdistan irakien. Une attaque qui a causé la mort de 9 civils et 23 autres blessés, des femmes et des enfants parmi des blessés et des morts. Alors, il y a des manifestations anti-turques partout en Irak, un deuil national et le risque de la rupture de toute relation diplomatique avec l'Irak. Est-ce que cette attaque turque et cette décision turque et d'Erdogan a été la goutte d'eau qui fera déborder la vase ? On en saura plus avec nos deux invités. Quelles seront alors les répercussions de cette attaque turque contre l'Irak? Quelle mouche a-t-elle piqué le président turc pour avoir commis cette grosse erreur? On en évoque ce sujet avec nos deux invités. Arnaud Develet, juriste international, Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, tous deux depuis Damas, la Syrie. Je commence avec vous, Madame Midani, si vous voulez bien, les dames d'abord. Donc, Madame Midani, bonjour et merci de nous avoir suivis sur ce débat et d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Madame Midani, à votre avis, pourquoi est-ce que la Turquie a-t-elle commise cette grosse erreur ?
D'abord, je vous remercie. Je salue toute l'équipe de Presse TV. Je vous remercie pour votre invitation. Je salue Maître Develet et l'ensemble de vos téléspectateurs.
Merci.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Merci. Le plaisir est partagé.
De rien. De rien. Est-ce une erreur ? Est-ce que c'est une... est-ce que c'est quelque chose qu'il a commis comme ça de manière intempestive? Je crois qu'il faut regarder un petit peu l'historique de Erdogan. Jusqu'à présent, il a assisté à toutes les réunions et il a signé tous les accords. Et en fait, deux minutes après, il passe à la violation de ces accords. Je voudrais parler essentiellement aussi des accords d'Astana, par exemple. À partir du moment où il reconnaît la souveraineté de la Syrie et puis son intégrité territoriale, il lance une offensive, soi-disant, pour créer une zone de sécurité, entre guillemets, de 30 km à l'intérieur des territoires syriens. Il lance aussi, par terroristes interposés, il lance aussi des attaques contre la base de Hmeymim en Syrie. En même temps, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les agressions et les intrusions de l'armée turcs en Irak ont eu lieu. Là, aujourd'hui, effectivement, c'est flagrant parce qu'en fait, il attaque un centre de loisirs, un village de loisirs. Il tue des civils, des enfants, des femmes qui sont là au bord de la mer en vacances. Et il prétend qu'il est en train de se battre contre le PKK. Alors, je voudrais dire que le PKK, c'est une véritable chandelle et une véritable raison fallacieuse qu'il brandit à chaque fois, aussi bien en attaquant la Syrie qu'en attaquant l'Irak, hein, alors que la coordination entre FDS, qui est prétendument le PKK, et les troupes d'Erdogan, elle n'est pas loin, puisqu'il collabore avec les Américains dans le pillage du pétrole et du blé syrien, et que ce pétrole et ce blé syrien transitent tout de suite par la Turquie, arrivent aussi d'ailleurs dans la famille d'Erdogan, parce que son fils Bilal, il est complètement impliqué dans le vol du pétrole syrien et dans sa commercialisation. Et en même temps, et de la même manière pour les céréales syriennes.
Oui.
Je voudrais aussi rappeler quand même que le pouvoir d'Erdogan, le régime d'Erdogan, est aussi impliqué dans le soutien des terroristes qui sont à Idlib, donc Ahrar al-Sham, l'armée du Turkménistan, l'armée du Kurdistan, etc. Il y a 40 factions terroristes dans le nord-ouest de la Syrie aussi, entre Idlib et le nord de la Syrie, qui sont animées par les services d'Erdogan et qui coopèrent avec l'armée turc dans l'attaque de la population, dans la turquisation du territoire syrien, et surtout d'ailleurs qu'il coopère avec FDS pour la création, je rappelle quand même récemment qu'il y a eu un accord pour la création d'une raffinerie de pétrole aux frontières, oui, d'Alep, de pétrole volé aux Syriens. Donc, en fait, il nous racontait qu'il est en train de se battre contre le PKK qui est représenté par FDS, avec lequel il collabore et aussi coordonne les actions d'agression avec les terroristes d'Idlib et du nord de la Syrie. Tout ça, c'est du pipeau pour nous faire passer la pilule de son agression totale. Et de son agressivité, de sa coordination avec Israël, rappelons-le aussi, parce que là aussi, il y a eu des accords entre eux de coopération et de coordination sécuritaire, entre guillemets, oui, donc d'agression entre la Turquie et Israël, alors que de l'autre côté, il passe des accords avec l'Iran, la Russie, etc. En fait, et puis cette nuit, il y a eu aussi une attaque contre la base de Hmeymim,
oui,
par les Turcs, hein. C'était bien sûr arrêté avant, mais il y a eu aussi des agressions contre la Syrie, à la fois dans la zone de l'aéroport de Damas, mais aussi il y a eu aussi des agressions à la voiture piégée, en fait, des plastiques qui ont été mis dans un bus qui permettait aux forces de l'ordre, en fait,
oui,
du sud de la Syrie à rejoindre leur poste, en fait, mm-hmm, les gens.
Oui.
Donc il y a aussi des morts et des blessés. Donc en fait, tout ceci nous permet de voir que, en fait, Erdogan, on ne peut absolument pas le croire. Il faut une manière coercitive pour lui faire appliquer les accords qu'il signe, ses promesses.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Je m'adresse à vous, Maître Develay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Idani l'a très bien évoqué. Erdogan est connu pour ses politiques de deux poids, deux mesures. Il a toujours marché sur les pas des Occidentaux, de l'axe US-Israël-OTAN. Mais à votre avis, quelles seront les répercussions de cette attaque turque contre le Kurdistan irakien ?
Mais écoutez, tout d'abord, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Dr. Midani. Écoutez, je crois que Dr. Midani a très bien souligné la situation, résumé la situation. Ce qu'il faut comprendre de facto, c'est que malgré la configuration qui est sortie de cette séquence de ces 10 derniers jours entre le sommet de Jeddah et le sommet tripartite de Téhéran, alors même qu'on pouvait penser qu'il y avait un certain consensus sur la marche à suivre pour résoudre les crises régionales, hein, la Syrie, l'Irak, mais probablement au-delà de ça aussi le Yémen, il y a effectivement toujours ce problème avec les Turcs où on s'aperçoit qu'ils n'ont pas alors soit les moyens de leurs ambitions par rapport à ce qu'ils prétendent officiellement, soit, en fait, ils servent comme un cheval de Troie, essentiellement. Donc, ils donnent le change parce qu'il y a des intérêts sur d'autres dossiers qui font qu'ils ne peuvent pas s'extraire des processus en cours concernant le fait qu'ils partagent des frontières et des intérêts avec des pays dans la région. Mais n'oublions pas, comme l'a souvent rappelé un autre de vos invités qui est souvent consulté sur le sujet, que la Turquie fait partie de l'OTAN et que, oui, partant de là, elle constitue l'une de ses armées les plus importantes. Et que Erdogan est un peu, si vous voulez, au niveau de sa personnalité, quelqu'un qui est dans une situation où il est obligé de donner constamment des gages aux uns et aux autres. Il en va de sa survie politique. N'oublions pas qu'il a fait ample démonstration publique dans ses déclarations, que ce soit auprès des médias turcs ou auprès de la base de son parti, qu'il avait l'intention effectivement de créer cette zone tampon de 30 km en Syrie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a caché, ce n'est pas quelque chose sur lequel il peut maintenant revenir s'il veut pouvoir sauver la face et se maintenir dans une certaine dynamique en vue des élections présidentielles turques l'année prochaine. Élections présidentielles turques qui en plus coïncident avec le 100e anniversaire de la révolution de 1923. Donc si on s'en tient effectivement à cette configuration et qu'on prend en compte aussi les dossiers, Dr Midani l'a bien rappelé, qui sont extrêmement bien documentés sur la participation active du clan Erdogan au pillage des ressources et partant de là, leur acheminement vers des États qui n'ont pas vocation à voir la situation régionale se stabiliser, alors on est en droit de se demander si cette attaque sur une station balnéaire qui n'avait absolument aucune valeur militaire ou stratégique, mais qui était un acte de provocation pur et simple visant à antagoniser le gouvernement central à Bagdad et forcément amener ce dernier à réagir. On verra maintenant de quelle manière, mais toujours est-il que voilà, Erdogan, c'est les mathématiques du chaos. En cela, il a adopté la leçon des Américains qui créent des faux fuyants, des faux semblants, qui prétend combattre le terrorisme, mais le terrorisme qui lui-même l'alimente. Tout ça avec cette idée que de toute façon, c'est une fuite en avant pour ce qui est d'Erdogan maintenant. Je pense que le sommet tripartite de Téhéran avec tous les éléments qui étaient pourtant mis en place, rassemblés, fait que la Turquie maintenant a du mal à pouvoir prétendre, ne serait-ce que prétendre, à convaincre ses partenaires qu'elle partage ne serait-ce que les deux piliers fondamentaux du format Astana, qui est celui de la souveraineté territoriale syrienne et de la souveraineté de l'État syrien sur ce territoire. Il y a visiblement une collision qui ne peut, à un moment donné, que se matérialiser et il va falloir dorénavant prendre acte de cette séquence pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'on souhaiterait qu'elle soit.
Merci pour vos explications, maître. Alors, Madame Idani, lors de sa visite en Iran, les autorités iraniennes avaient fait comprendre non seulement à la Turquie, mais à toute personne et à toute partie, quiconque qui attaquerait une des parties de l'axe de la résistance des pays de la région ou ferait en fait des agressions, cette agression retournerait contre ces acteurs. Est-ce qu'à votre avis, cette attaque turque pourrait mener à la dégradation des échanges, des relations, si on pourrait dire, des relations entre la Turquie et les pays de la région, dont l'Iran, la Syrie et l'Irak? Est-ce que cela pourrait même mener à la rupture des relations entre ces parties?
En fait, effectivement, c'était très important la mise au point du grand leader Ayatollah Khamenei quand il a reçu avec le président Raisi Erdogan, en lui disant de toute façon, la sécurité de l'Iran est très importante, la sécurité de la Syrie, elle fait partie de la sécurité de l'Iran, la sécurité de la Turquie fait partie aussi bien de la sécurité de l'Iran et de la sécurité de la Syrie, et que toute action en fait perturbatrice que pourrait mener la Turquie, elle va être retournée contre la sécurité de la Turquie et elle met en danger la Turquie et son peuple. Cette mise en garde était vraiment très importante, très claire, très précise, montrant les lignes rouges en fait que l'Ayatollah mettait, et ceci donc comme je dirais ligne de fond et de la politique iranienne vis-à-vis de la question, vis-à-vis de la région. Il a insisté sur le fait qu'il est important quand même qu'il y ait unité entre tous les musulmans autour de la question palestinienne, et que effectivement nous devons tous soutenir les Palestiniens jusqu'à la libération de leur pays et la réalisation de leurs objectifs, et pas du tout aller avec dans les notions de normalisation ou de relation avec l'État fantoche d'Israël. Et donc ceci a été vraiment très clair, très important, et on est quand même très surpris que à suite, effectivement tout de suite après cette réunion qui était de grande importance, puisque ça a été aussi souligné par la Russie, que en fait la Russie tient à la stabilité de la région, elle tient aussi à l'intégrité territoriale de la Syrie, à la stabilité de l'ensemble des pays de la région, et donc voilà. Mais il a suffi que en fait il y ait tout de suite après une affirmation du fait que la Russie est accepté l'intermédiation, la médiation de la Turquie dans l'Ukraine, en fait dans l'exportation des céréales vers le monde dans la question ukrainienne. Bon, ben là, je crois que Erdogan s'est senti un maillon très important en fait dans la politique russe et dans la politique mondiale. Ceci avec aussi le fait qu'il soit membre de l'OTAN et qu'il agit quand même aussi pour les intérêts américains, oui, et en coordination avec eux, on fait qu'effectivement, il tape tantôt comme ça, tantôt comme si, mais en fait, il est clair qu'il n'a jamais respecté pour ce qui est de notre région, de la région du Moyen-Orient, de la Syrie et vis-à-vis de l'Irak et vis-à-vis des Palestiniens, il n'a jamais respecté ce qu'il a prétendu et ce qu'il a signé et ce qu'il a prétendu reconnaître, en fait. Parce qu'il faut voir quand même que ces coordinations, ces accords avec Israël, avec la coordination sécuritaire, la coordination des services de renseignement, les visites diverses visites d'ailleurs de responsables turcs vers l'état d'occupation et vice-versa. Tout ceci montre quand même que c'est du pipeau et qu'ils ne respectent pas. Maintenant, est-ce que ça va vers la rupture ? Je ne crois pas qu'on va vers la rupture des relations parce que partout, en fait, surtout dans les pays du voisinage, on évite qu'il y ait des ruptures, on essaye de régler les questions par la discussion et par la... par les ententes. Il n'y a que Erdogan qui a recours toujours à la force et à l'agression militaire. D'ailleurs, la Syrie, depuis le temps, je peux dire que l'armée arabe syrienne, elle aurait pu effectivement mener une guerre contre l'armée turque et puis chasser les Turcs avec, avec leur sbire qui relève de l'Iran, parce que je voudrais quand même en 2019, lorsque l'armée arabe syrienne a voulu libérer Jisr-Shour, Riha, et puis la ville de, a été très, très, elle a réussi à le faire. Elle a donné une belle raclée d'ailleurs à l'armée turque hein, à ce moment-là. D'ailleurs, suite à ce moment, il y a eu d'ailleurs une demande expresse de la part d'Erdogan de rencontrer Poutine. Mais en fait, la Syrie essaye d'éviter complètement, pardon, deux secondes, je termine ma phrase.
Oui, bien sûr.
La Syrie évite effectivement les bains de sang et surtout qu'il y ait beaucoup de victimes et surtout qu'il y ait beaucoup de civils qui payent le tribut d'une confrontation entre ces deux armées qui ont des frontières sur une distance de 1000 km à peu près.
Oui.
Donc, voilà.
Merci à vous, Madame Mideni. Maître Develay, nous avons moins d'une minute devant nous. Le mot de la fin est à vous.
Oui, je dirais qu'effectivement, l'intérêt de la résistance, malgré les provocations de plus en plus stridentes de la Turquie, et de jouer, si je puis dire, l'apaisement. Alors l'apaisement, oui et non, il peut y avoir des réponses ponctuelles et contextualisées de telle sorte que la situation régionale n'escalade pas. La dernière chose dont la région a besoin, c'est un conflit ouvert avec la Turquie. Maintenant, effectivement, c'est un jeu de patience, parce que pour ce qui est des grands ensembles, la Turquie n'est que la pointe aiguisée d'un édifice qui, derrière, est en train de, quelque part, s'effondrer. Si on prend en compte la situation économique dans l'Occident collectif, on peut imaginer que d'ici quelques mois, peut-être même avant la fin de l'année, la situation va devenir extrêmement difficile, socialement, économiquement, dans les pays du cœur otanesque.
Oui.
Et que cela va mener à des changements politiques, en tout cas à des ajustements d'agenda où il faudra gérer en interne plutôt que financer des politiques néocoloniales, et que partant de là, la Turquie sera obligée de prendre acte que le mur sur lequel elle se repose est en train de s'effriter, de se lézarder, et que...
Merci.
Partant de là, on aura des personnes rationnelles à Ankara qui seront en mesure de prendre acte de l'évolution de la situation. Mm-hmm. Mais c'est dans un contexte global, je pense, qu'il faut prendre en compte la situation actuelle et surtout rester mesuré.
Merci à vous. Merci Arnaud Develay, juriste international. Aïssa Armideni, analyste franco-syrienne des questions internationales, était avec nous pour ce débat. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et au revoir. We'll be right back.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme hebdomadaire portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Dans quelques instants, nous vous présentons quelques grandes lignes de cette semaine. Sommet de Téhéran, un succès. Le mardi 19 juillet, le sommet des garants du processus d'Astana s'est déroulé à Téhéran, capitale iranienne. Les trois présidents russes, turcs et iraniens ont discuté de la Syrie et d'autres questions y concernant. En marge de leur réunion tripartite, ils ont aussi tenu des réunions séparées avec de hauts responsables iraniens, dont le leader de la révolution islamique. Ils ont passé en revue des affaires importantes concernant les trois parties. Le sommet a été la une de la presse régionale et internationale. Parmi d'autres, le journal Qatari, digne arabe, a estimé que le président russe s'est concentré sur le changement des règles du jeu avec Washington et l'Occident en proposant de renforcer les relations stratégiques avec l'Iran. Selon le journal, la réunion de Téhéran était la première rencontre des présidents des pays garants de l'initiative d'Astana pour la paix en Syrie après l'attaque russe contre l'Ukraine en février dernier. Cependant, les observateurs estimaient que la Syrie n'occuperait pas une place importante à l'ordre du jour de ce sommet, surtout que les opérations militaires turques dans le nord de la Syrie ont été pratiquement arrêtées et que l'urgence a été accordée plutôt aux questions liées à la guerre en Ukraine, au dossier nucléaire iranien et à d'autres questions liées à l'énergie et à l'alimentation. Selon le journal Qatari, bien que ce sommet ait lieu à l'initiative de Téhéran, il semble que la Russie était la plus intéressée. La raison en est le problème de l'Ukraine et les sanctions sans précédent qui sont imposées à Moscou. Le journal estime que la Russie n'a jamais eu autant besoin de l'Iran et de la Turquie qu'aujourd'hui. En conséquence, la Russie espère, peut-être pour la première fois, porter ses relations avec l'Iran à un niveau stratégique après l'avoir utilisé toujours, selon le journal, comme outil de négociation dans ses interactions internationales avec l'Occident. D'après le journal Qatari, en raison de l'effondrement de ses relations avec l'Occident, Moscou souhaite pouvoir proposer une alliance stratégique à Téhéran afin de conduire les Iraniens à abandonner complètement tout effort de réparer les relations avec l'Occident pour relancer l'accord nucléaire de 2015. Zinio Arab estime qu'il est fort probable que dans le cadre de sa bataille contre Washington, la Russie livre à l'Iran des armes qu'elle a jusqu'à présent refusé d'offrir, comme le système de missiles S-400. Selon les estimations des Américains, la Russie pourrait également chercher à acquérir des drones iraniens et à les utiliser dans la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, les deux pays sous sanctions américaines essayeront de se coordonner sur la manière de contourner les sanctions et de soutenir les opportunités commerciales entre eux et d'échanger des expériences pour contourner le système mondial du dollar. Iran-Russie, le duo gazier choque. La première visite de Poutine en Iran depuis l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas été que politique. Elle a aussi été trop gazière. À Téhéran, un pas géant a été franchi dans le sens de création d'un duo gazier choc et ont été décidés entre l'Iran et la Russie de l'expansion du système BRICS qui comprend la Russie et la Chine ainsi que l'Inde, l'Afrique du Sud et les pays d'Amérique latine en incluant l'Iran comme une puissance régionale, de ce que la Russie profite de l'expérience de l'Iran en matière de contournement des sanctions internationales qu'elle subit depuis plus de 40 ans, de la coopération et la coordination irano-russe dans la guerre énergétique actuelle et de l'accroissement du volume des échanges commerciaux et des investissements. Le jeudi 21 juillet, soit à peine 48 heures après la fin du sommet de Téhéran, l'Iran a annoncé avoir l'intention de hausser le pompage de gaz à partir du plus grand gisement gazier du monde qu'il partage avec le Qatar, par Sud. La veille, mercredi, Mohsen Rojastemer, vice-ministre du pétrole et PDG de la Société nationale iranienne de pétrole, NIOC, a déclaré que la production de gaz de la phase 11 de par Sud commencera en hiver grâce au plan d'installation de plateformes de suppression sur le terrain. Rojastemir a déclaré que la NIOC et la compagnie pétrolière publique russe Gazprom avaient négocié l'installation de suppresseurs à part Sud. L'exploration et les études de concept sur ce projet sont terminées et les études fondamentales sont en cours. Nous espérons que la production de gaz de la phase 11 se concrétisera cet hiver, a-t-il déclaré. L'Iran a développé les 28 phases, sauf une à part sud, le plus grand champ gazier du monde, situé à la frontière maritime entre l'Iran et le Qatar. La phase 11 possède certains des réservoirs les plus grands et les plus complexes de part sud. L'Iran a attribué un important contrat au géant français de l'énergie Total en 2016 pour la construction de plateformes de suppression sur le terrain. Cependant, Total français a quitté l'Iran un an plus tard sous la pression des États-Unis. Il semblerait que les Occidentaux ont tout faux. Hezbollah, Israël prêt à capituler. Le mardi 19 juillet, le secrétaire général du Hezbollah libanais a placé l'entité sioniste devant un dilemme, la capitulation gazière ou la guerre. Un dilemme qui a poussé Gantz à se précipiter à Washington pour rencontrer les généraux US et s'enquérir si, oui ou non, l'Amérique va tremper directement dans la guerre. En juger les appels de détresse sioniste à l'adresse des Européens à qui Israël demande une médiation, la réponse devrait être négative. Et il y a des signes. Le régime sioniste a procédé à une nouvelle frappe contre le sud de Damas, largement contrée par la DCA syrienne. C'est sa façon de cacher son incapacité à faire face au dilemme établi par le Hezbollah. Les défenses aériennes syriennes ont affronté des cibles, précisant qu'il s'agissait de cibles hostiles qui survolaient la banlieue de Damas. Selon le rapport du ministère syrien de la Défense, la nuit du 22 juillet, l'ennemi sioniste a mené un raid en tirant plusieurs missiles depuis le Golan occupé. L'ennemi a frappé plusieurs points à proximité de la capitale syrienne. Nos systèmes de défense ont fait face à la frappe aux missiles et ont réussi à détruire certains d'entre eux, annonce le communiqué du ministère. Le gouvernement syrien a annoncé à plusieurs reprises que le régime sioniste et ses alliés occidentaux soutenaient les groupes takfiristes anti-syriens. L'armée syrienne a saisi à plusieurs reprises des dépôts d'armes et de munitions de fabrication israélienne appartenant au groupuscule terroriste basé en Syrie. The Jerusalem Post a écrit que la dernière attaque aérienne israélienne en Syrie a été menée il y a plus de 2 semaines, au cours de laquelle les drones ont visé la région de Quneitra dans le sud-ouest de la Syrie. Mais la fuite en avant d'Israël face à la perspective d'une guerre totale en Méditerranée n'en reste pas là. Alors que le triplé de drones Mersad 1 et son assaut contre Karish, ce 2 juillet, a littéralement mis sens dessous la DCA sioniste, Israël a publié jeudi une info dilatoire faisant état de ses supposées capacités d'opération de drones extraterritoriales. La télévision israélienne a prétendu à cet égard. L'armée a admis pour la première fois avoir utilisé des drones d'attaque pour des opérations en dehors de la Palestine occupée, notamment dans la bande de Gaza, en Syrie et ailleurs. Selon le rapport, le secteur de surveillance militaire de l'armée sioniste a autorisé pour la première fois la diffusion de cette information, soulignant que cela ne pourrait absolument pas mettre en péril la capacité opérationnelle de l'armée. Yediot Aharonot a également écrit dans ce sens. Il s'agit d'attaques menées par l'armée de l'air dans les différentes régions, dans la bande de Gaza, au Golan et au Liban. À vrai dire, Israël émet des signes d'essoufflement et se prépare, selon des indications, à capituler. Il semble qu'à la suite des 2 discours récents du secrétaire général du Hezbollah, les Israéliens semblent convaincus qu'ils devraient passer en revue leur équation régionale. Si l'ennemi sioniste veut faire basculer les choses vers la guerre, nous sommes prêts à affronter n'importe quel scénario, avait martelé Saïd Hassan Nasrallah. Manbij Tarifat, l'Irak quitte le navire. À peine quelques heures après la fin de la réunion de Téhéran, dans laquelle le dossier syrien occupait une part majeure, la Turquie a entamé des mesures pour jeter les bases de la réouverture de la route d'Alep à Latakia afin de conclure un accord préliminaire. Un accord qui comprend la remise d'une partie de Manbij et de Tal Rifat à l'armée syrienne. Malgré l'insignifiance des mesures prises à cet égard, si l'accord aboutit et que les États-Unis n'arrivent pas à le bloquer, cela peut entraîner une ouverture limitée dans le dossier litigieux d'Idlib et la réutilisation de la route M4 en tant que l'une des routes stratégiques les plus importantes de la Syrie. Au lendemain du sommet de Téhéran, Une délégation militaire et de sécurité turque s'est rendue dans plusieurs zones d'Idlib et a tenu plusieurs réunions, dont certaines avec les habitants des villages sur la ligne de contact de Jabal al-Zawiya, où passe la route d'Alep à Latakia. Tout en promettant d'empêcher l'aggravation de la situation sécuritaire et militaire à l'avenir, ainsi que l'amélioration significative de la situation économique, la délégation a demandé aux habitants de se préparer à retourner dans leur village. On a également annoncé la réouverture de la route M4 et une série de points de passage économique qui relient généralement Idlib aux zones contrôlées par le gouvernement syrien. Il convient de noter que ce samedi 19 juillet, lors d'une audience accordée par le leader de la révolution islamique d'Iran au président turc, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei a souligné la nécessité de préserver l'unité des territoires syriens, précisant qu'une attaque militaire contre le nord de la Syrie nuira à la Turquie, à la Syrie et à toute la région et profitera aux terroristes. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.